Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Vous êtes sur Fréquence Mistral, bienvenue si vous nous rejoignez pour le magazine régional à la bonne heure. Lundi 2 février, c'est une journée consacrée sur le plan environnemental aux zones humides, étangs, lagunes, marais salants, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies inondables. Les zones humides aussi ont leur journée mondiale, célébrée donc chaque année le 2 février. Et en France, pendant tout le mois de février, de nombreuses associations, collectivités territoriales, groupes de citoyens, gestionnaires d'espaces naturels et bien d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux proposent chaque année plus d'animations destinées à sensibiliser un large public, jeune comme adulte, à l'importance de la préservation des milieux humides. Pour nous en parler, je reçois Pierre Gottardi, président de France Nature Environnement 04. Bonjour et bienvenue dans le studio de Fréquence Mistral.
Bonjour.
Et Vincent Duru, directeur de la Fédération Pêche et Protection du Milieu Aquatique 04.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. On va donc pouvoir faire un focus sur ce que sont les zones humides et peut-être pour commencer, comment ça se forme. Pierre Gottardi, vous avez des éléments à nous apporter sur ces écosystèmes.
Alors, ce que je voudrais dire en introduction, c'est que les zones humides, ce sont des zones de transition entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Et donc, ce sont des zones qui sont extrêmement riches sur un plan biodiversité, que ce soit animal ou végétal. Et donc, du coup, c'est vraiment des zones qu'il faut considérer comme des zones à préserver, des bijoux, quoi. Parce qu'à cause, justement, de ce mélange des deux influences. Voilà. Donc, comment se forment les zones humides? Eh bien, je vais demander à Vincent, qui est un spécialiste.
Les zones humides, c'est effectivement l'interface entre le terrestre et le milieu d'eau libre stricte. C'est justement ces zones d'accumulation de matériaux qui forment des cuvettes sous des langues de moraine pour les lacs d'altitude, proches des cours d'eau, proches des lacs. Et c'est vraiment ces milieux qui sont à la fois imbibés d'eau, qui trempent les pieds dans l'eau, mais qui ne sont pas parcourus par des eaux libres et qui, pour le coup, justement, accueillent une richesse spécifique qui leur est propre et qui est très différente de ce qui se passe en eau libre stricte. Voilà, donc après, il y en a différentes formes. On a des marais, on a des tourbières, on a des forêts alluviales, ça veut dire des forêts de bord de cours d'eau. Forêts alluviales qu'on est plutôt en train de perdre, malheureusement, parce que nos cours d'eau sont hyper anthropisés, ça veut dire très aménagés par l'homme. Voilà, il y en a des formes vraiment très très différentes, mais encore une fois, c'est toujours une zone d'interface, comme le disait Pierre, entre le terrestre et l'aquatique libre strict.
On peut compléter ce que vient de dire Vincent par le fait qu'on a des zones humides aussi en bordure de mer, hein, où on mélange l'eau douce et l'eau salée. Et donc, on a effectivement des estuaires où on a les marais salés. On en parle beaucoup dans l'ouest, là. Et puis, on a aussi des milieux qui sont extrêmement intéressants. Mais alors, ça, c'est sur les climats plutôt tropicaux, c'est les mangroves. Ces zones où on a un peu d'eau, où on a beaucoup de végétation. Et donc, c'est des milieux où, beaucoup d'espèces viennent se reproduire. Enfin, je pense aux alevins, par exemple, ou bien tout ce qui est crustacés, les crevettes, etc. Donc, ces zones qui sont extrêmement riches au niveau planétaire. Et avec une biodiversité animale et végétale vraiment très, très riche, quoi. Il y a des espèces qu'on ne trouve que dans ces milieux-là, dans ces milieux humides.
D'ailleurs, quand on parle notamment de forêts alluviales, c'est-à-dire de forêts qui sont spécifiques à ces arbres qui ont les pieds dans l'eau, en bord de cours d'eau, on considère que sur les forêts alluviales originelles, notamment celles du Rhin, parce que ça a été largement étudié, on avait une biodiversité qui était grosso modo l'équivalent de la biodiversité qu'on retrouve en Amazonie. Donc on parle quand même de quelque chose d'extrêmement riche. Le problème, c'est qu'en Europe, particulièrement en Europe de l'Ouest, on a perdu ces grandes zones humides, ces grandes forêts alluviales, ce qui fait qu'on n'a plus la culture de cette richesse-là.
En complément, par exemple, si on prend un cours d'eau comme la Durance, la zone d'expansion naturelle de la rivière, elle faisait plus d'1 kilomètre de large. Donc ça veut dire qu'on avait un kilomètre de zone de biodiversité, où la rivière pouvait passer ou ne pas passer, c'est pas régulier. Et donc tout ça, c'est des milieux qui vivent, qui changent en permanence. Et donc c'est d'une richesse exceptionnelle. Aujourd'hui, le lit de la Durance, il a été divisé par 3, voire par 4. Et donc en fait, tous ces espaces naturels riches, eh bien, en fait, ils ont disparu au profit de soit de zones agricoles, soit de zones urbaines aménagées, etc. Quoi. Et ça, c'est une grosse perte en termes de richesse, de biodiversité, d'espèces.
La Durance, pour parler de ce cas-là, fait partie de ces rares rivières en Europe avec un style fluvial particulier, ce qu'on appelle le style fluvial en tresse. Et effectivement, comme disait Pierre, on avait un cours d'eau qui faisait parfois plus d'un kilomètre de large, qui s'est réduit, dont le lit s'est réduit de moitié. Et l'avantage de ces grands cours d'eau très larges, c'est qu'on a une végétation pionnière, de saules notamment, et d'autres espèces végétales qui leur sont très spécifiques, qu'on ne retrouve plus, ou de moins en moins. Alors sur la Durance, on en retrouve encore un peu, mais le pourcentage de linéaires de cours d'eau en tresse qui s'est perdu en Europe est considérable, et on a encore quelques vestiges, notamment en région PACA.
Alors on va peut-être revenir sur les spécificités de la région PACA, mais alors comme on a cité la date du 2 février, on peut peut-être aussi préciser que le 2 février correspond à la signature de la convention sur les zones humides dans la ville iranienne de Ramsar, c'était en 1971. Un mot peut-être sur cet événement, sur cette convention.
Cette convention donc réunit différents pays, je crois qu'il y a un peu plus de 200 pays qui ont signé cette convention, dont l'objectif est de protéger des grands milieux, des grandes zones humides, avec une vocation plutôt habitat oiseaux. Donc c'était un premier pas vers la reconnaissance des zones humides, qu'on a souvent ou délaissé, voire même asséché, parce qu'on en avait peur, notamment par rapport à des maladies infectieuses. Et enfin, on a une convention qui a permis de mettre des grands États autour de la table pour dire bah, c'est des milieux particuliers avec une richesse spécifique et il faut les protéger. La difficulté, c'est que la liste des zones humides recensées dans cette convention, il y en a un peu plus de 1800. Dont un peu plus de 900 rien que pour l'Europe, sont des très grandes zones humides. Donc ne reflètent pas la grande diversité des zones humides qui peuvent être petites, moyennes, grandes, et qui sont extrêmement nombreuses. Je ne connais pas la liste en région PACA, mais je pense que des sites comme la Camargue en font partie, mais on a plein de petites zones humides dont l'importance est pourtant à noter et qui n'est pas mise en avant par cette convention. C'était le premier pas. Mais maintenant, il y a des choses qui sont faites qui permettent d'aller plus loin sur des plus petites zones humides.
Oui, et comment dire, pour compléter ce que vient de dire Vincent, dans toutes les bassins versants du département 04, mais c'est pareil dans le 05, quand on a des structures de gestion qui se mettent en place pour faire des actions de gestion des cours d'eau, de préservation, etc., en fait, il y a systématiquement des inventaires des zones humides qui sont réalisés, justement pour pouvoir après faire des plans de gestion et de préservation de ces milieux en partant de ceux des plus dégradés pour essayer de les faire revenir dans des états beaucoup plus protégés. Quoi. Voilà. Mmh. Et ça, c'est un travail au quotidien que font les structures de gestion, comme le syndicat mixte aménagement de Asbléon, par exemple. Mais on a pareil sur le Buech, on a pareil sur le Calavon, le syndicat du Calavon, partout. Et en bordure de Durance, c'est pareil. Le syndicat de la Durance s'occupe aussi de faire de la préservation des zones humides, de façon à continuer à conserver ces milieux qui sont fragiles, mine de rien. Même si on en a beaucoup, ils sont tous très fragiles.
Et puis on se rend compte en plus que ces zones humides, au-delà de la richesse spécifique qu'elles apportent, c'est qu'elles rendent des services écologiques, elles rendent des services pour l'homme au quotidien, ne serait-ce que dans leur capacité à auto-épurer l'eau qui vient des cours d'eau, qui vient des bassins versants, qui n'est pas toujours de très bonne qualité. Donc ça, c'est déjà un élément assez important. Et puis, c'est aussi le meilleur moyen de conserver durablement de l'eau dans un bassin versant. Une zone humide, ça permet de conserver, de stocker de l'eau et de la restituer petit à petit. Et plus on assèche ces zones humides, et plus on se retrouve dans des situations où les sécheresses sont d'abord de plus en plus importantes à cause du réchauffement climatique, mais en plus aggravées par la perte de surface de zones humides.
Oui, on dit toujours que le meilleur stock de l'eau, il est dans le sol. effectivement, donc ces zones humides qui conservent de l'eau, plus elles en ont et plus en fait on sait qu'on a un stock d'eau qui est là. Donc on régule en fait les volumes d'eau qui tombent quand il pleut. Il y a des volumes qui sont stockés, puis après qui ressortent petit à petit au fil de l'année. Et donc on a une régulation de l'eau dans les bassins versants. Donc plus on a de zones humides, plus on régule les précipitations qui vont devenir de plus en plus irrégulières aussi aujourd'hui. Quoi. Voilà. Il faut savoir que les précipitations fortes, elles ruissellent plus que ce qu'elles pénètrent dans le sol. Et quand on a des zones humides, comme ça fait des espèces de petites bassines qui sont naturelles, en fait, on arrive à stocker, à infiltrer et conserver et relarguer beaucoup plus tard. C'est vraiment il y a vraiment un effet sur la régulation de l'eau dans les bassins versants à travers les zones humides.
On peut avoir, alors je peux citer ce que je connais dans les ados de Provence, on va avoir les zones humides qui sont liées aux langues moréniques sur les lacs d'altitude et proches des lacs d'altitude. On a des anciens glaciers qui disparaissent, qui découvrent des cuvettes, qui sont ensuite comblées par des matériaux moréniques qui sont relativement fins et qui vont s'imbiber ensuite d'eau, qui vont créer des marais spécifiques à ces zones-là. On va voir effectivement les zones alluviales, les forêts alluviales en bordure de grands cours d'eau. C'est le cas de la Durance, c'est le cas du Bêche, ça va être le cas de la Bléone aussi, de l'As et bien d'autres cours d'eau dans la région. On va avoir aussi au travers de ça des petites résurgences qu'on appelle les adous. Alors on a déjà parlé à votre antenne, c'est des tout petits cours d'eau qui sont en fait des résurgences de la nappe principale de cours d'eau. Dans le département, on en a autour de 200. Je sais que dans les Hautes-Alpes aussi, il y en a beaucoup. Sur tous ces cours d'eau, justement, un petit peu large, on a ces petites résurgences un peu partout qui apportent de l'eau fraîche. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup des types de milieux différents.
Après, on peut, quand on se promène et qu'on voit des zones humides, on a effectivement, par exemple, on a les marais, ce qu'on appelle les marais, c'est des zones de roselières. Donc, on en voit, par exemple, aux bordures du plan d'eau de l'Escale. Donc, ça, c'est vraiment des zones spécifiques comme zones humides. Après, on a des choses qui sont, dont on parle, enfin, on entend parler dans d'autres endroits, c'est les tourbières. Les tourbières, c'est effectivement, alors là, c'est des sphaignes, donc c'est une espèce particulière qui se développe. Et bien, comme c'est des zones qui n'ont très peu d'oxygène, en fait, la matière organique, elle ne pourrit pas, elle se transforme en tourbe. C'est ce qu'ils exploitent en Irlande ou en Écosse. Et effectivement, c'est des zones qui sont très, très spécifiques, qui peut-être qui sont marécageuses, hein, avec de l'eau qui bat, etc. Et puis, on a aussi les prés inondables, c'est-à-dire que les prairies qui sont en bordure de cours d'eau, qui, dans certains cas, sont arrosées de manière artificielle. C'est-à-dire qu'on a des... Enfin, je pense à certaines communes dans le département, notamment à Blieux, où il y a des prairies humides, qui sont humides parce qu'elles ont été arrosées par des canaux humains. Donc c'est des prairies un petit peu artificielles, mais enfin bon, on a une richesse, une biodiversité, des espèces qui poussent, et donc de l'herbe qui est produite, qui est sans aucune commune mesure avec des pelouses sèches, si vous voulez. Ouais, voilà. Et puis alors après, quand on est plus près de la mer, on a des marais, des marais salants, on a les fameux marais du Poitou, par exemple, qui sont des gigantesques zones humides, intermédiaires entre de l'eau libre et puis des zones beaucoup plus terrestres, avec des îlots, enfin voilà, des choses extrêmement diversifiées, quoi.
Alors, vous avez parlé des bienfaits dont les zones humides font profiter l'humanité. Est-ce qu'on peut parler de la coexistence des zones humides et de la population humaine ? Est-ce que l'humanité rend bien ses services aux zones humides ou est-ce qu'au contraire...
Historiquement, malheureusement, ces zones humides ont été souvent pointées du doigt parce qu'il y avait pas mal de développement de maladies infectieuses, notamment... le paludisme, hein, les zones de marais avec beaucoup de moustiques, et même encore, hein, quand on parle de marais, les gens pensent moustiques, ça va piquer, ça va gratter, on ne se dit pas qu'il y a un bienfait derrière. Alors bien sûr, le moustique en lui-même, le bienfait, il n'est pas évident, on est bien d'accord, mais par contre, la zone humide en tant que telle, elle a un rôle fonctionnel. Et c'est vrai qu'historiquement, c'est vraiment des zones qu'on bannissait, qu'on drainait, et qu'on asséchait pour des raisons sanitaires, parfois justifiées, parfois injustifiées. Souvent injustifié d'ailleurs, et malheureusement on s'est retrouvé avec plein d'exemples d'anciens marais complètement drainés, asséchés pour éviter différentes pathologies. Maintenant qu'on s'aperçoit, alors le rapport à ces milieux commence un peu à changer, puisqu'effectivement on s'aperçoit qu'ils ont aussi des bienfaits pour l'homme. D'abord, on le disait, le stockage naturel de l'eau, le relargage lent vers les cours d'eau qui servent de récepteurs de ces milieux-là. l'épuration de l'eau quand on a des captages d'eau potable en bord de cours d'eau et que ces cours d'eau sont dépollués justement grâce aux capacités auto-épuratoires de ces zones humides, et ben c'est toujours bien de pouvoir en bénéficier. Mais ça, c'est des choses qu'on sait que depuis 40, 50, 60 ans. Et ce n'est pas parce qu'on le sait depuis 50 ans qu'on fait des choses depuis 50 ans. C'est même plutôt récent.
Oui, d'ailleurs, dans le département, comme dans les Hautes-Alpes ou dans les autres départements, il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent les palus. Les quartiers des palus, en général, c'était des zones humides. Donc, alors, très souvent, d'ailleurs, les gens drainent, c'est-à-dire qu'ils font des canaux pour évacuer l'eau. Et en fait, comme c'est des terrains souvent qui sont en surface, qui sont plutôt filtrants, je parle bien de la surface, hein, en fait, ils mettent des canaux d'irrigation. Donc, les canaux d'irrigation ont deux vocations. Donc, parce qu'il faut quand même apporter de l'eau en période de croissance. Et il y a beaucoup d'endroits qui sont des palus, qui sont en fait des aujourd'hui, c'est tout cultivé. Enfin, je pense à Vallée de l'As, par exemple. On a des associations qui ont donc créé des canaux à la fois pour drainer et à la fois pour irriguer, quoi. Et c'est comme c'était des terres plates, c'était tout trouvé pour pouvoir cultiver de manière assez tranquille, quoi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je vais faire une petite blague, mais quand on a le castor qui revient, le castor, il est dans la rivière, mais il aime bien aller aussi dans les canaux, parce que, comme disait Vincent, l'eau des adous, elle est fraîche, donc elle est à température constante, donc il y a des poissons. Le castor, le niveau est toujours constant, les débits sont très réguliers, et donc ils adorent faire des barrages dans les canaux d'irrigation, qui sont aussi les canaux de drainage. Donc, avec quelques petits problèmes de cohabitation avec les riverains, mais bon, ça, c'est un autre problème. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de tout ça, mais si vous voulez, la cohabitation entre l'homme et la nature, elle est ce qu'elle est, quoi, voilà. Et donc, les zones humides ne sont pas forcément prioritaires là où il y a de la pression foncière, quoi. Voilà,
c'est ça, c'est vraiment que la prise de conscience, malgré tout, elle génère quand même... Des conflits d'usage, puisque entre des usages économiques stricts et la prise de conscience, on se rend compte qu'il y a encore un écart assez important, que ce soit avec le monde agricole, avec aussi l'installation de grandes zones commerciales dans des zones humides, parce que c'est des zones plates. Effectivement, on a plein d'exemples comme ça, hein, ne serait-ce que par exemple au Mets, la zone des Mets, où on a toute une zone commerciale en pleine zone humide. Et maintenant, il faut mettre des digues, il faut refaire les digues. Enfin, c'est effectivement très compliqué à gérer. Et même avec l'ensemble des usagers, on se repose souvent la question, quand il y a des habitations, bah oui, mais là, la douille déborde, ça prend toute la place. Moi, j'ai les pieds dans l'eau. Le problème, c'est qu'on a un héritage derrière qu'il faut gérer, un héritage humain, qui est pas encore compatible avec ces zones humides. Et c'est maintenant le grand effort qu'il y a à faire, c'est de rendre compatibles nos activités et nos installations qui existent parfois depuis des siècles avec ces zones humides. Et surtout le rôle environnemental, le gain écologique que ça peut nous apporter, les apports pour la vie humaine, ça ne rend pas forcément compte, mais voilà.
On peut citer des exemples de renaturation de cours d'eau. Par exemple, il y en a une qui a été faite dans le département, qui a été très bien faite par le parc du Verdon sur le Colostre, où ils ont décidé de renaturer la rivière. C'est-à-dire qu'avant 1960, vous verrez pourquoi je dis 1960, il y avait un cours d'eau avec une ripisylve qui zigzaguait, etc., puisque la pente n'est pas très forte. Et puis, il y a eu une crue en 58 ou 59. Et donc, du jour au lendemain, ils ont décidé qu'on ne peut pas tolérer les crues. Donc, ils ont fait passer un bulldozer depuis le sommet de la rivière jusqu'en bas, à l'embouchure, et on a mis ça tout droit avec des beaux merlans. Je vois qu'une seule paire d'oreilles, terminé. Et en fait, on a asséché les côtés, puisque la rivière file, elle ne mouille plus. Et donc, en fait, les gens ont développé des canaux d'irrigation parce que, bon, il y a de l'agriculture tout autour. Et puis, en fait, il y a un moment donné, on s'est posé la question, on dit, comment on fait pour que la rivière marche mieux? Et bien, on est revenu en arrière, c'est-à-dire que le parc a fait un projet à partir des photos historiques où on avait le méandrage de la rivière. Ils ont refait un lit en méandrant. Donc, il a fallu demander aux gens l'autorisation de récupérer les terrains, etc. Donc, c'est une opération qui a duré au moins 4 ans en préparation. Et puis après, il faut aller faire le chantier. Et ils ont fait qu'une seule tranche. Au moment, ils sont en train de s'attaquer à la deuxième. Et de nouveau, on a des milieux qui marchent tout seuls, quoi. La nature, elle n'a pas besoin de nous, hein, vous savez. Voilà. Et donc, la nature se restaure petit à petit quand on lui en donne la capacité. Et donc, ces zones humides, elles sont extrêmement importantes. Alors, sur un bassin versant, le Colostre, depuis 2007-2008, et chaque année, il est en sécheresse, le Colostre. Donc, on peut peut-être se poser des questions sur pourquoi il fonctionne comme ça, quoi, aujourd'hui. Et on s'aperçoit effectivement que si on laisse l'eau si on laisse le sol de la rivière, le lit de la rivière, ralentir la vitesse de l'eau, on a de l'eau qui se stocke latéralement dans la nappe et dans les alluvions sur les côtés. Et donc, du coup, l'eau va moins vite, de manière globale. Et donc, on a effectivement de l'eau qui dure plus longtemps pour les cultures, etc. Quoi.
Voilà. Et une restitution, après, qui se fait aussi dans le cours d'eau lui-même, qui est plus lente, plus longue, qui permet, dans le coup, d'avoir un peu de débit. L'exemple du Colostre, il est frappant en termes de diversité, parce que le Colostre, avant les années 60, c'est entre 6 et 8 espèces de poissons différentes. Après les aménagements, c'est une espèce. La seule espèce qui est capable de nager dans un toboggan, passez-moi l'expression, où les vitesses sont augmentées. Le débit, lui, n'a pas augmenté, mais par contre, on est passé d'un style de cours d'eau méandriforme avec des zones en tresse à un style très torrentiel, très rapide, où il n'y a plus qu'une seule espèce qui pouvait vivre dedans, la truite commune. C'est pour ça que maintenant, le retour en arrière permettra peut-être aussi de revoir un peu cette biodiversité, ne serait-ce que piscicole, et certainement d'autres compartiments biologiques aussi tout aussi importants.
Je fais un saut à une échelle supérieure au niveau de la Durance. La Durance, depuis qu'elle est aménagée, en fait, le lit s'est restreint, puisqu'il y a, il faut savoir que dans la Durance ne coule que 5% de l'eau qui devrait passer naturellement. Bon. Donc, effectivement, le lit s'est asséché. Il y a un petit filet d'eau qui coule au milieu de la plaine. J'exagère un peu, mais bon, c'est à peu près ça. Et donc, en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la nature, elle a une forme de résilience. Donc, il se développe dans le lit de la Durance des espèces végétales, et notamment des arbres, les peupliers, etc. Et donc, en fait, le fait d'avoir cette végétation dans le lit, en fait, si demain on a des grosses crues, elle passe pas, la crue va déborder. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'organiser du nettoyage, alors nettoyage à grand renfort d'engin, pour enlever ces zones de ripisylve qui se sont développées naturellement, pour faire un chenal pour la crue. Donc, quelque part, on a perdu des milieux, on a perdu aussi des fonctionnalités. C'est-à-dire que la rivière, avant, elle passait. Alors, on appelait la Durance, elle avait une très mauvaise réputation. C'était un des fléaux de la Provence, avec le Parlement et puis le Mistral. Voilà. Mais si le lit, il était tel qu'il était, l'eau, elle passait quand même, quoi. Il y a eu des crues sur la Durance qui étaient plus de 5000 m3 secondes. Ça n'a pas touché tant de maisons que ça, parce que les gens s'étaient mis loin. Aujourd'hui, si on avait la même crue, du côté d'Avignon, ce serait pas la même musique, quoi. Voilà.
L'exemple de la Durance, il est frappant. C'est donc on l'expliquait tout à l'heure, c'était un lit qui était colonisé par de la végétation pionnière, en fait, de saules, de jeunes saules, de jeunes arbres, qui a petit à petit été remplacé par des bois plus durs et dont la durée de vie était beaucoup plus longue. Donc aujourd'hui, il faut voir qu'on a effectivement des peupliers, d'autres essences de bois beaucoup plus durs, qui ont 30, 40 ans. Et qui, par contre, effectivement, le jour où arrivera une crue de retour de fréquence de 100 ans, de 100 ans, ben, va être embarquée et fera beaucoup plus de dégâts qu'une végétation pionnière de quelques dizaines de centimètres ou quelques mètres de haut, relativement tendre, et qui passe plus facilement, notamment les ouvrages d'art, et qui peut être plus facilement évacuée. Donc ça, c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que, quand on perd cette fonctionnalité-là, il faut la remplacer par un travail humain qui est un travail interminable de longue haleine qu'il faut refaire tout le temps. Pierre en parlait, c'est ce qu'on appelle les essartements, cet arrachage de bois, et qui est extrêmement coûteux. Et c'est un effort à la fois humain et financier qu'on n'aurait pas à faire si on avait laissé tranquille le lit de la rivière.
Et autre chose, une aménité dont on ne parle pas, enfin qu'on parle plus, c'est qu'en fait, avant, dans les ripisylves, ici, le terme, c'est les iscles. Ils appellent ça les iscles. Voilà. En fait, les gens, au printemps, ils allaient faire pâturer les moutons. C'est-à-dire la première végétation qui démarre, en général, elle démarre dans les iscles. Et moi, j'ai rencontré des agriculteurs ici qui disaient, quand j'étais jeune, le troupeau de moutons, on le mettait dans les iscles parce que c'est là que les moutons pouvaient trouver de la végétation nouvelle en premier lieu, quoi. Et donc, ça avait aussi un intérêt. Puis bon, les iscles étaient régulièrement recépés pour faire du bois de chauffage, etc. Donc, il y avait aussi des aménités intéressantes pour les gens qui vivaient au bord de la rivière, parce qu'elles leur apportaient aussi, tout en respectant la rivière et son espace, on avait quand même des effets positifs pour la vie des locaux, quoi.
Alors, on peut préciser, évidemment, qu'aujourd'hui, ce sont des zones qui sont menacées. À quel rythme sont-elles menacées? Je ne sais pas si on compare, par exemple, à la déforestation.
Alors, la menace jusque-là était humaine au sens très direct du terme. Ça veut dire qu'on asséchait, on drainait, et donc on détruisait ces zones humides de façon consciente, voulue. dans un objectif d'utilisation à des fins économiques locales. On a pris conscience qu'il fallait quand même faire quelque chose et peut-être s'arrêter sur cette destruction. Et on est en train d'y arriver. Il y a aussi plein de choses à faire pour revenir en arrière. Par contre, maintenant, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a une autre forme de destruction qui est beaucoup plus passive, mais qui est en cours, c'est le réchauffement climatique. C'est-à-dire que ça, on n'a pas trop la main dessus. On a un peu la main, il y a encore des choses à faire. Mais si on attend encore un peu trop, il n'y aura plus grand-chose à faire. Et malheureusement, ce réchauffement climatique va amener à une baisse des débits des cours d'eau et une baisse des arrivées d'eau dans les bassins versants qui va forcément assécher, sans qu'on y soit pour quelque chose très directement, qui va assécher les zones humides. Donc maintenant, on a un enjeu micro fort où on peut agir et un enjeu macro où c'est une action collective mais mondiale. Et là, ce n'est pas forcément du ressort du citoyen lambda, c'est de son ressort bien évidemment, mais à sa petite échelle, fort coordonnée.
Oui, parce qu'en fait, le réchauffement climatique qui est dû au gaz à effet de serre hein, génère deux facteurs, c'est donc l'augmentation de la température, et donc l'augmentation de la température fait qu'effectivement on a plus d'eau dans l'air, on en a moins qui se stocke dans le sol, quoi. Donc cette diminution de la ressource. Bon, elle a été. On arrive à l'approcher hein, dans le cadre de la réflexion qui se fait sur la Durance, le schéma d'aménagement de la Durance. En fait, il y a des modélisations qui sont faites. On parle de moins 15% en 2050 et de moins 25% en 2100, quoi. Donc, voilà. Par rapport à une année normale où il passe 4 milliards de mètres cubes dans le bassin versant, moins 25%, ça fait un milliard en moins. Comme on ne va pas diminuer les consommations, ça va commencer à être tendu, quoi. Voilà. Et le problème, c'est qu'un des phénomènes parallèles, c'est quand les précipitations vont probablement être moins bien réparties qu'aujourd'hui, dans le temps et dans l'espace. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir peut-être des événements plus violents, donc qui vont durer moins longtemps, aussi fort qu'avant, si ce n'est plus. Donc on voit ça avec les phénomènes qu'on appelle maintenant méditerranéens, hein, où on a des précipitations qui rentrent. Et puis, mais ce qui n'exclut pas d'avoir des précipitations, hein, mais le modèle tend à montrer qu'en fait, globalement, la ressource va diminuer. Alors après, on peut avoir des endroits où on aura effectivement, où il y a des années, on aura peut-être des sécheresses, deux ou trois années de sécheresse de suite, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et par contre, on va peut-être effectivement avoir des années humides. Mais globalement, la tendance, elle est à la diminution de la ressource en fonction du scénario qui est utilisé, qui est le scénario à plus 4 degrés. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a dépassé 1,5 à l'échelle mondiale. Et dans les Alpes, on est à 3. Entre 2,5 et 3 degrés. Voilà. Donc, les zones montagneuses réchauffent beaucoup plus vite que les zones que la moyenne mondiale.
D'où l'importance des zones humides, puisque dans le coup, on en aura de plus en plus besoin. Donc, on a besoin de plus en plus de les restaurer. On avait d'ailleurs étudier au niveau des Alpes de Provence, hein, l'impact du réchauffement climatique. Et contrairement à ce qu'on pense, on parle toujours des effets qui vont arriver. Non, ils ne vont pas arriver. Ils sont déjà là, ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé dans les années 70 à être visibles. Donc au fur et à mesure, on se retrouve avec une situation qui est de plus en plus tendue sur l'hydrologie. Ça veut dire qu'il faut de plus en plus savoir de quoi retenir l'eau de façon la plus naturelle possible. D'où l'importance des zones humides sur lesquelles il faut urgemment travailler pour qu'elles jouent leur rôle de stockage.
Alors les journées comme le 2 février, journée mondiale consacrée aux zones humides, ont pour objectif justement de proposer de s'intéresser à ces écosystèmes. On peut citer que le comité permanent de la Convention sur les zones humides choisit des thèmes pour les journées mondiales. En 2025, c'était « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». En 2026, le thème c'est « Zones humides et savoirs traditionnels, célébrer le patrimoine culturel ». Est-ce que vous avez un mot, un commentaire sur la dimension peut-être culturelle des zones humides? Vous parliez tout à l'heure de la perception des marais, on pense tout de suite aux moustiques.
Je pense à la Camargue, où on a effectivement des usages qui sont inféodés au fait qu'on a de l'eau dans les canaux, etc. Mais on peut parler au niveau national, le marais Poitevin, il y a une tradition effectivement de se déplacer sur les canaux qui sont à l'intérieur des marais, etc. Donc il y a des savoir-faire locaux. Moi, je repense à des savoir-faire que j'ai connus au début de ma carrière dans le Cantal. Dans le Cantal, les agriculteurs se servaient des sources qu'il y avait sur leur terrain. Ils faisaient des espèces de réserves où ils mettaient le fumier au printemps, ils brassaient ça avec de l'eau pour envoyer dans les champs. Et donc, ils avaient des canaux qui servaient à la fois d'irrigation, à la fois de drainage, mais c'était des outils à faire à la main de l'homme, c'est-à-dire que c'était des petites rigoles, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec du drainage de profondeur, quoi. Et donc, en fait, ils ne modifiaient pas le régime de la zone humide, ils entretenaient simplement en surface pour pouvoir faucher et puis apporter les nutriments qu'il fallait à travers l'eau qui était naturellement sur place, quoi. Et ça a disparu. Enfin, moi, j'ai modestement contribué parce que j'étais là-bas à m'occuper de ça sur le plan financier. Les drainages, en fait, avaient pour but, effectivement, cette fois de capter les sources et de vidanger les zones humides pour que les terrains puissent être labourables avec des engins agricoles avec des guillemets modernes. Voilà. Et donc, et effectivement, il y a tout un patrimoine dans ces régions-là, en Auvergne, qui a été détruit à cette occasion-là. Le problème, c'est qu'au bout de quelques années, ils se sont aperçus qu'il fallait irriguer les champs pour avoir les mêmes récoltes qu'avant, quoi.
Et après, en termes de culture, on peut aussi parler d'acculturation, puisqu'il y a aussi une perte de connaissances, on en parle un instant, de méthodes ancestrales pour mieux gérer ces zones humides. Il y a aussi toute une crainte ancestrale de ces zones humides. Il y a vraiment un effort à faire en termes d'acculturation, donc de porter à connaissance auprès du grand public, pour justement que le grand public se réapproprie ces zones, se réapproprie la façon dont ça fonctionne, les gains que ça peut générer à tout un chacun. Et là, il y a un vrai effort à faire sur ce plan-là, que ce soit au niveau local, mais au niveau international, puisque ce phénomène de réchauffement climatique, il est malheureusement mondial, il touche tout le monde. Et les zones humides contribueront largement à essayer de limiter les effets et les dommages collatéraux.
On rappelle donc qu'en France, pendant tout le mois de février, de nombreuses associations proposent des animations destinées à sensibiliser le public à l'importance de la préservation des milieux humides. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a des événements en particulier, des manifestations que vous voudriez signaler, que ce soit concernant France Nature Environnement 04 ou la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique ?
Le 10 février, ma fédération de pêche organise un ciné-débat sur une campagne nationale que mène notre fédération nationale qui s'appelle Sauvons nos rivières. Il s'agit de l'acte 4 puisque ça fait maintenant quelques années qu'on mène des campagnes au niveau national sur la protection, l'importance de la protection du milieu aquatique. Et cette année, justement, c'est sur les très petits cours d'eau. Notamment, alors, ça concerne les adous, ça concerne le petit chevelu. Donc, ce qu'on appelle le petit chevelu, c'est les petits cours d'eau de tête de bassin qui ont un rôle primordial pour la préservation de la biodiversité du cours d'eau principal.
Moi, je voudrais juste dire qu'au niveau régional, on travaille beaucoup sur l'adurance et que FNE-PACA et FNE-04, enfin les autres FNE dans la région, en fait, on est à la disposition des communes ou des associations pour projeter et commenter des films qui ont été faits sur... Il y a un film sur l'adurance, il y a un film sur le verdon et qui sont effectivement faits par... qui ont été faits par FNE-PACA et qui sont passionnants. Donc, ils sont à disposition et nous, on est à disposition pour animer des projections avec le public, quoi. Il n'y a aucun problème. Il suffit de demander.
Merci Pierre Gottardi, président de France Nature Environnement 04 et Vincent Duru, directeur de la Fédération de pêche et protection du milieu aquatique 04. Est-ce qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui, pour le temps qui nous était imparti, ou est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez ajouter ?
Il y aurait tellement de choses à dire qu'on pourrait y passer des heures.
Alors si on veut revenir sur ce que vous avez pu présenter aujourd'hui, en tout cas, on peut toujours réécouter l'émission disponible donc sur fréquencemistral.com. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Et on va se quitter en musique avec Talking Heads, Take Me to the River, pour aller faire un petit tour près de la rivière. Bonne journée à toutes et à tous.